Créateur ineffable.
Vous êtes la ressource de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par le Christ notre Seigneur.
Amen. Sainte Madeleine, priez pour la chapitre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Hop. Si on peut allumer le micro. Alors, je dois vous parler aujourd'hui, donc le titre de l'exposé, c'est « D'où vient notre messe traditionnelle ?» Donc il y aura dans ma présentation une première partie qui sera un peu historique, hein, qui remontera aux origines de la messe de manière assez rapide, assez légère. Hein, je ne vais pas excessivement rentrer dans les détails, parce que ce genre de sujet, soit on le traite en 10 heures, soit on le traite en une demi-heure, en fait. C'est compliqué de trouver le bon équilibre. Et ensuite, je ferai une seconde partie, toujours sur cette question de d'où vient la messe traditionnelle, mais sur un autre point de vue, celui des symboles et de leur progressive, en fait, élaboration dans les différentes parties de la messe. Vous savez que chaque geste a une signification dans la cérémonie de la messe et qu'on n'en a pas toujours conscience, et que cette méconnaissance est une des raisons qui a amené à la nouvelle messe, hein, à la fin des années 60. Donc c'est quelque chose d'assez important, je pense, non seulement de savoir comment est-ce qu'elle s'est élaborée, cette messe, mais aussi de bien comprendre pourquoi tel geste est fait et pas tel autre, et qu'est-ce que ça peut bien signifier, qu'est-ce que ça peut bien apporter. Alors, donc je vais commencer par effectivement une histoire assez rapide de la messe. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, le fondamental de la messe, c'est la dernière scène avec notre Seigneur qui institue l'Eucharistie. Et on a plusieurs récits de cette dernière scène dans les différents évangiles. Et là, ce qui va m'intéresser particulièrement en introduction, c'est celui de Saint Jean. Parce que Saint Jean place la crucifixion la veille du repas de Pâques, donc effectivement le vendredi. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la doctrine actuelle de la messe, ou les déviations actuelles au sujet de la messe, on a tendance à parler à propos de la messe de repas. Et il faut bien voir que voilà, le récit de l'institution de l'Eucharistie, ça n'est pas le repas de Pâques. C'est la veille du repas de Pâques. Et la veille du repas de Pâques, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Eh bien, tout simplement, on sacrifiait les agneaux qui allaient servir au repas de Pâques. Donc, au moment où on sacrifie les agneaux qui vont servir au repas de Pâques, c'est à ce moment-là qu'a lieu l'institution de l'Eucharistie. Donc ça, c'est assez important. Pardon, c'est à ce moment-là qu'a lieu la crucifixion. C'est assez important pour bien voilà, comprendre que ce qui nous intéresse là, c'est cette dimension sacrificielle de la messe qui est présente dès les premiers temps. Et la grande question, c'est voilà, cette messe, est-ce que c'est un repas d'abord? Est-ce qu'on est en face de quelque chose qui est simplement un repas? Et très vite, on se rend compte qu'il y a une séparation du repas, qui était le premier cadre dans lequel se déroulaient les messes, de la messe en elle-même. Je prends un texte qui est important, qui s'appelle l'Apologie de Justin, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, donc une centaine d'années à peu près après la vie de Jésus, un peu plus. Et voilà ce que dit Saint Justin. Le jour du Seigneur, tous ceux qui habitent les villes ou les champs s'assemblent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes tant qu'il reste du temps. Puis le lecteur s'étant arrêté, celui qui préside prend la parole pour exhorter avec force et mettre en pratique ces belles leçons. Ensuite, nous nous levons ensemble tous et nous adressons des prières. Et comme nous l'avons déjà dit, lorsque nous nous arrêtons de prier, du pain est apporté et du vin et de l'eau. Et celui qui préside adresse des prières et des actions de grâce autant qu'il est possible. Et le peuple répond « Amen ». Donc ça, c'est l'apologie de Justin. On voit que déjà à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un contexte de repas et que la structure essentielle, des grands points essentiels de la messe sont déjà en place. Hein. On a donc la lecture des apôtres, des écrits des prophètes, ensuite des prières, ensuite la consécration et la communion. Justin ne rentre pas dans les détails dans son apologie pour une raison très simple, c'est que à l'époque, la cérémonie elle-même, on ne peut pas y aller si on n'est pas baptisé. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez jamais assisté à la messe. Même quand vous êtes catéchumène, que vous allez recevoir le baptême, en fait, vous sortez après les lectures. Et tout le reste se fait uniquement avec les baptisés. Donc, il ne peut pas décrire en détail exactement ce qui se passe dans ce texte, puisque l'apologie de Justin, le but, c'est de dire à tous les habitants de l'Empire ce qu'est le christianisme. On est au milieu des persécutions et il essaye d'expliquer aux Romains que voilà, ce ne sont pas des fous furieux. Il y avait toute une série de rumeurs à cette époque-là sur ce que faisaient les chrétiens. On a des graffitis où on voit le Christ sur une croix avec une tête d'âne, par exemple. Donc les Romains, certains Romains pensaient que les chrétiens adoraient un dieu à tête d'âne, ou bien qu'ils mangeaient, qu'ils sacrifiaient des petits enfants, ou bien qu'ils étaient cannibales. Tout ça sont des choses qui avaient cours dans l'Empire romain à l'époque. Et donc Justin écrit un texte pour essayer de faire disparaître un peu ces rumeurs. Et donc il rentre pas dans les détails, mais quand même on a une première structure, les lectures, la consécration, la communion, qui sont déjà présents à ce moment-là. Alors ensuite, évidemment, les sources écrites qu'on a sont pas, il y en a pas des milliards, mais on a déjà au début du IIIe siècle, surtout au milieu du IIIe siècle, les premiers éléments bien clairs de ce qu'on appelle le canon romain, donc le cœur de la messe, la prière eucharistique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas vraiment en latin plus tôt? Pour une raison simple, c'est que jusqu'au IIIe siècle, les cérémonies, même à Rome, se font en grec. Donc le latin fait irruption dans la liturgie de la messe seulement au IIIe siècle, quand il y a ce basculement effectivement de la langue liturgique dans l'Occident romain. Donc à partir du moment où on a les textes en latin, petit à petit effectivement, eh bien, le canon va se rédiger. Il existait déjà en grec, mais le canon latin, on en a vraiment les premières traces à la fin du IIIe siècle. Et à la fin du IVe siècle, il est presque entièrement composé. C'est-à-dire que le texte que nous entendons à la messe à chaque fois que le canon est prononcé, c'est le même que celui qui se dit au IVe siècle, dans l'Empire romain d'Occident. Il y a juste quelques prières qui ne sont pas encore présentes. Vous avez par exemple le Ancigitur, la petite prière qui... Je ne sais pas si on a un missel ici ou un ordinaire de la messe, tout simplement. Hop, je vais regarder. Ah ben. J'ai amené ça pour ça. Hop là. Oui, donc le Ancigitur, voici l'offrande que nous vous présentons, nous vos serviteurs et avec nous votre famille entière, nous vous en prions, Seigneur, acceptez-la, etc. Donc tout ça n'est pas encore écrit à ce moment-là. Il n'y a pas non plus aussi, par exemple, le Memento des fidèles, trépassé, la référence aux morts après la consécration. Et puis il n'y a pas le Nobis Quoque Peccatoribus, cette petite prière qui est dite à voix haute à ce moment-là, n'est pas présente non plus. Mais tout le reste, c'est déjà dans le texte du canon au IVe siècle. Au VIe siècle, il y a tout. y compris les prières que je viens de citer, le canon est entièrement constitué dans tous ses détails au VIe siècle. Il n'y aura plus d'ajout après, sauf tout petit, la référence à Saint-Joseph dans le canon de la messe, par exemple, qui a été rajoutée assez tardivement. Mais sinon, on est sur des textes qui sont constitués, structurés, dans le même ordre, sans aucune modification. Ça, c'est un premier point qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que on a des textes là qui sont les mêmes dans l'Église depuis, en gros, le 4e siècle, donc depuis 1500 ans. Ça nous relie quand même à la pratique de la messe, et on voyait hier que c'était un argument important pour montrer la continuité justement de l'Église. Le fait que les cérémonies sont restées les mêmes montre qu'il y a un lien continu avec ce que faisaient les apôtres et ce que le Christ a voulu qu'ils se mettent en place. Alors ça, c'était pour le texte du canon. Si on voit la structure même de la messe, donc son organisation générale, donc on a dit au IIe siècle, il y a déjà les lectures, la consécration, la communion. Il n'y a pas énormément de traces des ajouts par la suite, sauf à partir du VIe siècle. Au VIe siècle, vous avez un pape, Saint Grégoire le Grand, qui a une très grande importance. Vous savez que le chant grégorien, ça vient de lui. Et au niveau de la messe elle-même, des cérémonies, il a aussi fait de très très grosses modifications. Par exemple, c'est lui qui va scénariser en quelque sorte l'entrée du célébrant dans l'Église, avec l'introïte et avec le kyrie. Alors pourquoi ça? Il faut bien voir que au VIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Empire romain au Ve, vous qui êtes tous férus d'histoire de l'Antiquité, Ve siècle, Empire romain, ça vous dit quoi? Chute de l'Empire romain d'Occident, 476. Donc l'Empire romain d'Occident a disparu. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que la seule chose, la seule institution qui se maintient dans l'Empire romain d'Occident et notamment à Rome, c'est la papauté. Et donc les Romains et le pape ont ressenti le besoin de un petit peu, on va dire, renforcer la gloire en quelque sorte, ou la dignité des cérémonies religieuses autour duquel le pape évidemment était central. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a introduit un certain nombre de processions, un certain nombre de solennités dans les cérémonies, et notamment donc cet introïte et ce kyrie. Et puis vers 530, le gloria va commencer à être dit par le pape quasiment à chaque messe. Sachant qu'avant, le Gloria, on ne le disait qu'à Pâques et qu'à Noël, et que seul le pape avait le droit de le dire. Ça nous semble une prière complètement banale de nos jours, mais en fait, cette prière du Gloria, c'était vraiment quelque chose qui devait être exceptionnel, et que seul le pape en Occident avait le droit de la dire. Ça nous laisse un peu rêveur. Même les simples prêtres, il faudra attendre le XIe siècle pour qu'ils puissent dire le Gloria. Parce que c'est un chant de gloire, on reprend les paroles des anges, c'était vraiment le chef de l'Église qui, au nom de toute l'Église, pouvait entonner ce chant-là. Donc ça avait une certaine importance. C'est aussi au VIe siècle qu'on met en place la collecte qui réunit les intentions de l'Église. Avant, on attaquait directement avec les lectures, en fait. À noter d'ailleurs que la collecte, c'est ce que de nos jours, dans la messe, le missel de 69, on appellerait la prière universelle. C'est la même chose, on réunit les intentions de l'Église. Donc la prière universelle est une sorte de redite de ce qu'est déjà normalement la collecte. Donc en gros, au VIe siècle, tout ce qui est dit à voix haute dans la messe est fixé. Les choses ne changeront pas dans ce domaine-là. Tout ce qui est dit à voix haute est déjà en place, le canon est déjà en place et ne bougera plus. Donc on a vraiment énormément de choses qui sont en place à ce moment-là. On entre dans la période du Moyen-Âge, où là il va y avoir un certain nombre d'évolutions. La première chose à noter, sur ce Moyen-Âge, c'est que le centre de gravité du christianisme va se déplacer. C'est-à-dire que jusqu'ici, les innovations liturgiques, la construction de la liturgie se faisait à Rome, et à partir de l'époque carolingienne, elle va se faire dans l'Empire carolingien. Donc on va avoir un phénomène assez intéressant. Charlemagne et ses successeurs vont prendre la liturgie du pape, la liturgie romaine, et vont l'importer dans l'Empire carolingien, hein, dans l'Empire franc. Et donc, dans l'Empire franc, on commence à avoir, effectivement, les cérémonies qui étaient les cérémonies de Rome, spécifiquement de Rome. Sauf que, évidemment, ça ne convient pas tout à fait à l'état d'esprit gaulois, franc, germain. Et donc, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être rajoutées, qui vont être complétées dans la messe à ce moment-là, au sein de ce qu'on appelle le pontifical romano-germanique. Je vous cite la chose uniquement pour référence, hein, mais vous n'irez jamais voir de votre vie le pontifical romano-germanique. Pour être honnête, je ne suis jamais non plus allé voir le pontifical romano-germanique, mais voilà, c'est intéressant de savoir ce que ça existe. Et alors, vous avez une multiplication, en fait, des prières à voix basse à partir de cette époque-là, que le célébrant va réciter, le front incliné, les mains jointes devant l'autel. Et donc, ce ne sont pas des prières, là, pour le coup, qui vont être destinées à l'assemblée. Elles sont rédigées à la première personne. C'est le prêtre lui-même, souvent, qui parle, qui s'adresse à notre Seigneur ou à Dieu ou au Père. Et donc, souvent, c'est une sorte de commentaire de ce que le célébrant est en train de faire. Hein. Ce sont des méditations sur ce qu'il est en train de se passer à l'autel ou sur ce qui va être chanté par le chœur. Donc, il y a beaucoup de prières à voix basse qui datent de ces époques-là. Et puis, au XIe siècle, cette période se termine et ce pontifical romano-germanique, donc ces cérémonies qui avaient été complétées par l'Empire carolingien et puis le Saint-Empire romain germanique, eh bien elles vont revenir à Rome. Et à Rome, ils vont adopter les cérémonies et le mode de fonctionnement liturgique des carolingiens. Hein, oui, il y a une sorte d'aller-retour. Hein. Les carolingiens prennent ce qu'il y avait à Rome, ils le modifient et ils le renvoient à Rome et Rome récupère la chose. Et tous les rites qui se faisaient à Rome au VIe siècle eh bien, sont évacués. Évidemment, il y a beaucoup de points communs puisque c'est la même chose qui avait été pris par les carolingiens. Mais c'est vraiment le rite carolingien qui va être mis en place à Rome à partir du XIe, XIIe siècle. Alors, vous avez à ce moment-là aussi toute une série de lectures allégoriques de la messe et beaucoup d'insistance sur les symboles, mais j'en reparlerai tout à l'heure, donc je passe sur ça. Ce qui est intéressant de bien voir, c'est que on va multiplier les signes de croix, les baisers de l'autel, les marques de révérence vis-à-vis de l'Eucharistie. Et souvent, le reproche a été fait au moment de la réforme liturgique à la messe traditionnelle, mais bon, c'est bon quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, ça suffit les signes de croix, ça suffit les embrassements de l'autel, il n'y a pas de raison d'en faire autant, c'est incompréhensible. Souvent, le reproche qui a été fait aussi, c'est que les gens ils font ça à toute vitesse sans trop faire attention. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel tout ça se met en place. À partir du Xe siècle, vous avez une prise de conscience très forte de ce qu'est la messe. Et cette prise de conscience, elle va avec, évidemment comme toujours, des hérésies sur ce qu'est la messe. En gros, au XIe siècle, vous avez une hérésie d'un évêque qui s'appelle Béranger de Tours, qui va nier la présence réelle au XIe siècle. Au XIIe siècle, les cathares font la même chose, hein, nient évidemment la présence réelle, l'idée que Dieu puisse évidemment venir dans du pain, puisque la matière est considérée comme mauvaise pour les cathares, c'est inimaginable. Donc, évidemment, quand on nie la présence réelle, la réaction toujours de l'Église dans ces cas-là est d'en rajouter une couche pour lutter contre les hérésies. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez avoir, au XIIIe siècle, l'apparition de la fête du très Saint-Sacrement. Hein, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place à ce moment-là et beaucoup de symboles vont être utilisés pour justement renforcer la foi dans cette présence réelle. Par exemple, au XIIe siècle, c'est là qu'apparaît l'élévation. La pratique de l'élévation de l'hostie apparaît au XIIe siècle. Ça devient rapidement un moment important de la messe, surtout parce qu'à l'époque, les fidèles, en gros, communient une fois par an. C'est très rare, la communion est rare au Moyen-Âge, elle va rester rare en fait quasiment jusqu'au XXe siècle. On communiait davantage avant en fait, mais au Moyen-Âge et époque moderne, on communie peu. Quand on communie, vous savez qu'il y a des règles très strictes hein, à l'époque. Si vous voulez communier le dimanche, il faut demander la permission à votre confesseur. En fait, à l'époque, de toute façon, on communiait uniquement on se déplaçait beaucoup moins que de nos jours, donc on communiait dans sa paroisse, évidemment. Donc le curé, vous connaissez. Donc déjà, si vous n'étiez pas confessé, il ne vous donnait pas la communion. Et dans tous les cas, il fallait qu'il vous donne la permission de communier le dimanche. Et vous n'aviez pas le droit de vous confesser, évidemment, à quelqu'un d'autre que votre curé de paroisse. Ou quelqu'un qui aurait reçu l'autorisation de lui, mais vous ne pouviez pas dire « moi le curé je l'aime pas trop, je vais aller me confesser dans la ville d'à côté ». Ce n'était pas quelque chose qui était possible, parce qu'évidemment, ensuite votre curé, lui, ne sait pas que vous êtes confessé, il ne va pas vous donner la communion. Donc c'était très strict sur ces éléments-là, on communiait très peu, mais comme il y a cette prise de conscience très forte de la présence réelle, eh bien, les fidèles ils veulent avoir des occasions d'être en contact avec notre Seigneur, et donc l'élévation va prendre une importance forte à ce moment-là. C'est aussi là que vont se développer les saluts au Saint-Sacrement, par exemple, qui ne se faisaient pas auparavant. C'est une pratique qui ne se faisait pas. Alors, vous avez un rite assez banal qui apparaît à ce moment-là, c'est la genouflexion au XIVe siècle. Avant, on ne se mettait pas à genoux. On s'incline, on se prostre, donc soit on s'allonge, soit on s'incline, mais le fait de se mettre à genoux est quelque chose qui est vraiment de la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle. Elle va vraiment s'introduire dans les cérémonies de la messe et dans la pratique des fidèles. Je rappelle qu'il n'y a pas de banc dans les églises à cette époque-là. Hein. Les bancs dans les églises, c'est tardif, 19e siècle. Avant, on est debout ou alors on est à genoux, mais on va pas. Bon, certains s'asseyaient peut-être par terre, j'avoue que j'ai pas trop de détails, mais on s'asseyait pas, voilà, c'était pas organisé comme ça l'est aujourd'hui. Les moments où on s'assoit, on se met debout, on s'agenouille, tout ça est très codifié, ça l'était pas du tout auparavant. Alors ça nous amène à la fin de mon exposé historique assez rapide. 1570, donc le Concile de Trente, enfin la suite du Concile de Trente, vous avez la bulle Quo Primo Tempore du pape Pie V qui va publier le Missel Romain, donc en 1570, qui va simplifier certains débordements de la messe du Moyen-Âge, parce qu'ils en avaient peut-être un peu trop rajouté. Et si au XXe siècle, ils ont trouvé qu'il y en avait beaucoup, c'est qu'ils n'avaient pas bien vu ce que c'était qu'au Moyen-Âge. Il y en avait encore plus hein, de gestes, de symboles. Et donc, Saint Pie V a beaucoup simplifié ce qui se faisait au Moyen-Âge. Alors, je vais vous distribuer un petit papier, là, qui permet de comparer, en fait, la messe au VIe et au XVIe siècle. Ouais. J'en ai fait 5, je crois. Donc, à gauche, vous avez une colonne donc, qui vous montre Ordo Romano Ius, hein, donc Primus, pardon. La messe à Rome au VIe siècle, et à droite, la messe de Saint Pie V, donc, que vous connaissez, qui est la même que celle qu'on a tous les dimanches. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en gros, c'est la même chose. Hein, si vous regardez, donc introïte, hein, l'antienne, plein de prières à voix basse, qui évidemment ne sont pas dans la messe romaine. Enfin, elles n'y sont pas. En tout cas, on n'en a pas de traces. Donc, a priori, elles n'y sont pas. Le Kyrie, le Gloria, la collecte, les lectures, hein, donc lecture des apôtres et les épîtres, donc c'est la même chose, hein, le graduel, l'alléluia ou le trait, parfois la séquence, donc qui est rajoutée au XVIe siècle, l'évangile, enfin vous voyez, en gros c'est la même chose. Le credo, je n'en ai pas parlé du credo, le credo ne se disait pas à Rome, hein, tout simplement parce que les Romains estimaient qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle la foi. C'était eux les garants. Donc, le credo ne se disait pas à Rome, il va se dire seulement à partir du XIIe siècle. Avant, les Romains considéraient que pourquoi vous voulez qu'on rappelle chaque messe notre foi ? on n'y a aucun problème, c'est nous, c'est nous la règle. Hein, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Offertoire, l'antienne de l'offertoire, bon, je passe, hein, en gros c'est la même chose, sauf qu'à chaque fois on a toute une série de prières à voix basse qui sont rajoutées entre, certains endroits, hein, et qui sont à chaque fois, qui sont importantes, Ce qu'on constate, et ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle messe est partie de cette Ordo Romanus Primus du 6e siècle. Et en gros, c'est dit, bah, on va faire ça. On va faire ça. Si vous regardez bien, ça correspond à peu près chant d'entrée, et puis directement, Kyrie. Ensuite, Gloria, etc. Et puis, offertoire, le chant d'offertoire. Et puis, bon, il y a deux phrases là qui se collent dans la messe nouvelle, mais rien de plus, on passe ensuite directement au canon. Hein. Le canon, bon, ils en ont fait quatre différents, donc ça a encore beaucoup évolué, mais bon, vous avez le canon numéro 1 qui est à quelques détails près le canon romain. Et puis ensuite, pareil, notre Père, etc., le Pax Domini, et puis directement la communion. On saute à peu près toutes les prières du prêtre. Donc en fait, cette nouvelle messe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste pris ce qui se faisait au VIe siècle, fait quelques modifications légères et rasé d'un trait les 1000 ans d'évolution liturgique qu'il y a eu entre. Hein. Donc voilà en gros ce qui s'est fait. Et ce qui est très dommage, parce que justement, ces évolutions avaient pour objectif de lutter contre un certain nombre d'hérésies, de renforcer la foi dans un certain nombre de domaines, et que forcément, quand on les enlève, ces rajouts, eh bien, on perd un certain nombre de choses. Alors justement, je viens à ça avec l'étude un peu des symboles de la messe. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous êtes intéressé par la chose, je vous conseille ce livre que j'ai découvert en faisant l'exposé qui s'appelle La messe, une forêt de symboles de l'abbé Claude Barthes, hein, qui est un peu une référence en liturgie. Ça se lit facilement, enfin de mon point de vue, donc je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. Non mais oui, parce que ça se lit facilement, ça ne veut rien dire. mais en tout cas, voilà, je vous le conseille, j'ai trouvé ça très intéressant. Les symboles de la messe. Je vais prendre comme clé de lecture quelque chose qui me semble important et qui peut vous servir à votre prière pendant la messe. C'est de comprendre que la messe est une sorte de retracement symbolique de la vie tout entière du Christ. Et on pourrait même dire de l'histoire du salut, de manière générale. Vous allez voir que les différentes étapes de la messe, eh bien, on a une progression très nette qui correspond à la progression de la vie du Christ telle qu'elle est racontée dans les évangiles ou plus généralement de l'histoire du salut. Donc on va voir un petit peu tout ça. On commence avec tout d'abord les prières au bas de l'autel. Oui, je vais trop vite ?
Non,
j'ai vu un sourire en coin, je me suis demandé ce que c'était. Alors, historiquement, les prières au bas de l'autel, elles étaient dites sur le trajet entre la sacristie et l'autel. En fait, c'était au IVe siècle des prières qui étaient prononcées par les nouveaux baptisés, qui se rendaient au baptistère, à l'église, pour assister à leur première messe. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça permet de remettre en contexte le psaume 42 qu'on récite à ce moment-là. Donc, pourquoi es-tu triste, ô mon âme ? Si je prends le texte, hop, je vais suivre ça comme ça sera plus simple. Voilà, donc vous avez le psaume 42, « Je m'approcherai de l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse, je vous louerai sur la harpe, etc. » Donc « Je m'approcherai de l'autel de Dieu », ce n'est pas un vain mot pour ceux qui le récitent à ce moment-là, puisque c'est la première fois qu'ils vont assister à la messe. Évidemment, nous, quand c'est la 400e fois, eh bien, ce n'est pas toujours aussi évident de se mettre dans les sentiments qui correspondent, mais à l'époque, c'était vraiment les nouveaux baptisés qui prononçaient ça. Et donc, c'était quelque chose d'assez important. Il faut bien comprendre que tout ce début de la messe, en fait, fait référence à la situation de l'humanité avant l'arrivée du Christ, avant le salut. Donc ils espèrent le salut, ils sont dans cet état d'esprit-là. Mais le salut n'est pas encore là. Donc ils vont présenter leurs infirmités. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que vous avez la confession des péchés. Donc c'est évidemment en référence à l'évangile de saint Matthieu qui dit si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, etc., laisse ton offrande devant ton autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc c'est une dimension de purification. Mais il y a aussi, on se met dans l'état, on est dans l'attente du salut, on n'a pas été sauvé, donc on présente à Dieu toutes nos misères. Voilà, regardez, Seigneur, on en est là, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre salut. Donc, cet élément de présenter ses fautes, de confesser ses péchés avant la messe, c'était déjà présent au 1er siècle. C'est-à-dire qu'on a un texte du 1er siècle qui s'appelle la Didaké, qui malheureusement ne rentre pas dans le détail liturgique, mais qui quand même précise bien qu'au début de la cérémonie, de la fractio panis, de la messe, on confesse ses péchés. Alors je pense qu'à l'époque, ça devait être réellement confesser ses péchés. Donc, mais évidemment, de nos jours, on va éviter les manifestations publiques de ce genre-là. Mais en tout cas, la chose était présente. J'imagine la scène si tout le monde se met le front contre le sol et commence à dire tout ce qu'il a fait de mal. Ça va rapidement être compliqué. Ça serait amusant peut-être, mais... Alors... Ensuite, il y a la montée à l'autel du prêtre, et la prière que le prêtre dit à ce moment-là, elle date du 6e siècle. Hop, il dit précisément... Pom, pom, pom. Enlevez nos fautes, nous vous en prions, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure. Donc, là, une prière qui est assez claire, et le prêtre embrasse l'autel. Alors, l'autel à la messe représente toujours le Christ. L'autel, c'est le Christ. Donc, quand le prêtre embrasse l'autel, c'est un geste d'amour du prêtre envers notre Seigneur au début de la messe. L'autel représente aussi souvent, dans les symboles, la croix du calvaire, puisque c'est là que le sacrifice va être effectué. Donc, ça peut être aussi la croix. Et parfois aussi, mais moins souvent, ça représente la table de la dernière scène. Mais quand même, les deux principaux symboles restent l'autel, c'est le Christ, ou bien l'autel, c'est la croix du Christ. Vous avez le fait que le prêtre embrasse l'autel est aussi une référence à un texte de l'Ancien Testament qui s'appelle le Cantique des Cantiques, où il dit qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. C'est le début du Cantique des Cantiques. Donc c'est quelque chose d'assez... d'assez lié, là encore, aux Saintes Écritures. Et ensuite, donc, introït. On se signe, puisque c'est là que commence la messe, normalement. C'est vrai que de nos jours, la messe, elle commence aux prières au bas de l'autel, mais en réalité, historiquement, la messe commençait à l'introït, puisque les prières au bas de l'autel se disaient entre la sacristie et la l'église. C'était vraiment l'introït qui lançait la messe qui va vraiment nous faire entrer dans la cérémonie. Et c'est là que va commencer l'allégorie de la vie du Christ. Vous avez d'abord le Kyrie. Le Kyrie, il date du 6e siècle, comme je vous l'ai dit, et il a énormément de significations symboliques. C'est une prière grecque, donc c'est un ajout qui vient de l'orthodoxie. Et c'est très dommage que dans le missel de 69, ils aient réduit à deux répétitions le Kyrie. Parce que d'une part, ils l'ont transformé en dialogue entre le célébrant et l'assemblée, ce qui n'était pas du tout l'idée originelle. Et puis, on a perdu toutes les significations. Donc, les significations, vous allez voir que, bon, il y a la classique, trois répétitions, c'est donc la Trinité. Mais vous avez aussi neuf fois Kyrie ou Christé en tout, ce sont les neuf cœurs des anges. Qui demande justement miséricorde à Dieu pour les hommes. Il faut bien voir que la doctrine des neuf cœurs des anges, je ne sais pas si vous êtes un peu familier de la chose, ça m'étonnerait. Quand vous lisez la préface, hein, vous avez l'énoncé de quasiment tous les cœurs des anges, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, les chérubins, les séraphins, les anges et les archanges, et j'en ai oublié une. Bref. Peu importe. Dans tous les cas, voilà, c'est une doctrine qui va se fixer à peu près à cette époque-là. Et donc, il y a vraiment le symbole là, des neuf cœurs des anges dans le Kyrie. Alors, vous avez d'autres choses. Hein. Saint Thomas d'Aquin nous en signale pas mal d'autres. Le triple péché, le péché originel, le péché mortel et le péché véniel. Donc on demande miséricorde pour cette triple chose, un péché originel, péché mortel, péché véniel. C'est aussi la triple misère de l'homme. Donc l'ignorance, la faute et la peine. Donc le fait que l'homme soit ignorant, qui est une conséquence, hein, vous savez, du péché originel, hein, on est stupide à cause du péché originel. La triple misère de l'homme. Les triples misères, enfin les trois misères de l'homme, on va dire. Donc l'ignorance, la faute évidemment, donc c'est les péchés qu'on peut faire, et puis la peine. Vous êtes bien au fait sur la différence entre le péché et la peine. Quelle différence il y a entre péché et peine?
La peine, c'est la conséquence.
Voilà. Donc on demande miséricorde pour ces trois choses-là. Et puis, il y a une troisième référence qui est intéressante aussi, c'est les trois âges du monde. C'est-à-dire, avant la loi de Moïse, donc la situation de l'homme après le péché originel, mais avant qu'il y ait effectivement l'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple élu. Ensuite, sous la loi de Moïse, deuxième âge du monde. Et puis, troisième âge du monde, sous la grâce, avec le salut. Donc, les trois âges du monde, je répète, avant la loi de Moïse, sous la loi de Moïse avec l'histoire du peuple élu, et sous la grâce après le salut apporté par le Christ. Donc c'est vraiment une prière d'une grande profondeur, dont le but est de vraiment réunir l'humanité tout entière sous la croix, et pour demander le salut. Pour demander le salut, demander au Christ de venir nous l'apporter. Donc on est dans cette attente du salut que le Christ doit apporter et va apporter pendant la messe. Et après le Kyrie, c'est pas un hasard, il y a directement le Gloria. Et le Gloria, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord le chant des anges à quel moment? La nativité. Donc on a la présentation de la misère de l'homme, et après la présentation de la misère de l'homme, vous avez le Gloria qui est, voilà, le salut est arrivé. La nativité, c'est le début de l'histoire du Christ, de l'histoire du salut. Et donc, on va pouvoir commencer à espérer. Donc, après ce Gloria, vous allez avoir la réunion des intentions des fidèles, donc la collecte. Je vais passer sur ça. Et on attaque l'Évangile. Donc, j'ai eu l'histoire, enfin la naissance du Christ, et ensuite j'ai, ben voilà, l'enseignement du Christ, la vie publique. Hein, la vie publique. Cette vie publique, elle est annoncée, et il y a quelques symboles intéressants à ce moment-là. Par exemple, quand c'est une messe solennelle, le diacre se met à genoux devant le prêtre, et il baise la main du prêtre avant de recevoir l'évangile. Je ne sais pas si vous avez observé la chose. Donc là, la signification, c'est qu'il reçoit la puissance et l'autorité du Christ comme les apôtres. À chaque fois qu'on embrasse quelque chose, c'est une manière de dire « je reçois l'autorité, je reçois la puissance de ce que j'embrasse ». Quand le prêtre embrasse l'autel, c'est une manière de dire « le Christ me donne son autorité ». Quand le diacre embrasse le prêtre, c'est « le prêtre, donc le Christ, me donne son autorité ». C'est toujours la même idée qu'il y a derrière. Le missel est placé en biais. Pour l'évangile sur l'autel. Pourquoi?
Pour symboliser l'annonce de l'évangile au peuple barbare.
Ouais. C'est beau. Effectivement, pour symboliser l'annonce de l'évangile au peuple barbare, puisque les églises sont orientées vers l'est, donc si on place en biais le missel sur l'autel, ça va le faire aller en direction du nord ou du nord-est, qui était la direction des expéditions missionnaires à cette époque-là. Donc c'était quelque chose d'assez important. Cette orientation en biais, elle date du Moyen-Âge, hein, c'est quelque chose qui a été fait à ce moment-là, justement pour signifier cette nécessité d'annoncer l'évangile au peuple du Nord, les Scandinaves, les Slaves, hein, puisque la conversion de ces peuples-là date de cette époque, du Moyen-Âge. Une fois qu'on a annoncé l'Évangile, eh bien, forcément, on a le credo, puisque la foi, ça y est constituée. La foi est constituée, donc on la réaffirme. Je vous avais dit donc qu'il avait été introduit au 10e, 11e siècle. On ne le dit pas le jeudi saint, et à la vigile pascale. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les deux seules cérémonies, bah, le vendredi saint aussi, mais bon, les deux cérémonies qui ont gardé la liturgie romaine du 6e siècle. Hein, donc, ils ont conservé ce qui était de la liturgie du 6e siècle, et donc, ils n'ont pas eu cet ajout du credo qui est arrivé après. Hein, donc, on ne va pas le dire à ce moment-là. Et après ce credo, on en arrive à l'offertoire. Donc, je vais insister un petit peu sur cet offertoire, puisqu'il a été entièrement supprimé dans la nouvelle messe, et bien comprendre le problème que ça pose. L'argument qui a été utilisé pour supprimer l'offertoire était que, en gros, on redit la même chose que ce qui va être dit au canon. Et c'est vrai. C'est vrai, on redit la même chose, il y a une comparaison très très forte à faire. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que, malgré ça, la prière, ces prières doivent être maintenues, je pense que la dimension d'insistance sur le sacrifice du Christ est un élément, mais moi, je sais que quand j'étudiais la question, c'est pas ce qui m'a entièrement convaincu. Par contre, si on prend cette allégorie que je vous disais de la vie du Christ, c'est plus intéressant. Plus intéressant, non, ce serait prétentieux de dire ça, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe avant la Passion ? Donc avant ce qui va être le canon de la messe. Bien, vous avez l'agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Or, il se trouve que que vit notre Seigneur au Jardin des Oliviers ? Il voit tout ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il vit en avance sa passion. Il vit en avance sa passion, il souffre de ce qu'il va souffrir, mais c'est une souffrance évidemment psychologique, spirituelle forte. Il voit les péchés de tous les hommes, et donc d'une certaine manière, il y a effectivement dans cette agonie déjà une première passion, parce qu'il sait tout ce qui va lui arriver et il le voit très clairement. Il le voit très très clairement. Donc l'offertoire, je pense, peut avoir ce rôle-là de retracer l'agonie de notre Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que les prières de l'offertoire, si elles retracent ce qui va se passer au canon, ont quand même quelques différences. Par exemple, souvent ces prières de l'offertoire vont être dites à la première personne du singulier. Alors que les prières du canon seront dites à la première personne du pluriel. Donc il y a une dimension un peu plus personnelle, en quelque sorte, dans la prière de l'offertoire, qui peut bien signifier cet élément un peu plus, on va dire, psychologique, en quelque sorte, ou spirituel, d'implication de souffrance spirituelle du Christ à ce moment-là. Après, sur les symboles même de la messe, ce sont des symboles que vous connaissez à ce moment-là, le mélange d'un peu d'eau avec le vin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'explication classique, notre participation au sacrifice du Christ. Il y a une autre signification qui est très importante. Au Concile de Florence, vous avez eu, donc qui est au 15e siècle, l'Église a condamné une doctrine de l'Église d'Arménie, un coup des Arméniens, qui disait que le Christ n'avait que la nature divine, hein, qu'il n'avait pas la nature humaine. Or, il se trouve que dans leur cérémonie de la messe, les Arméniens ne mélangeaient pas l'eau et le vin à l'offertoire. Donc en fait, le symbole là, du mélange de l'eau et du vin, c'est aussi la signification que dans le Christ, il y a la nature humaine et la nature divine. Donc c'est pas seulement notre participation, ça donne aussi un enseignement théologique assez, assez important. C'est quelque chose qu'on faisait dès le début, hein. Dès le deuxième siècle, on a des traces de ce mélange de l'eau et du vin à la messe, et les juifs le faisaient, hein. Les juifs ne buvaient pas d'eau pure, jamais, hein. Et le vin, de toute façon, était très rarement bu pur sous l'Antiquité. On mélangeait toujours, c'est-à-dire que le vin de l'Antiquité n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous imaginer de nos jours. Les vins sont souvent, bon, c'est pas le cas du vin du dernier repas du Christ, mais les vins étaient souvent avec des fruits, enfin très parfumés. Il y avait beaucoup de mélange. Oui.
Pourquoi c'est notre participation à le mélange de l'eau et du vin ?
Alors justement parce que comme on est unis au Christ par la nature humaine, eh bien comme ce mélange d'eau et de vin signifie que la nature humaine étudie la nature divine, eh bien ça nous unit nous aussi d'une certaine manière. Et par ailleurs, ça symbolise le fait que au moment de l'offertoire, historiquement, on amenait effectivement des offrandes. Donc c'était le peuple qui avait une procession d'offrandes et le peuple amenait des offrandes à l'autel qui étaient reçues par le célébrant ou ses assistants, hein, et qui faisait partie, qui était voilà, un don des fidèles pour l'Église, pour les pauvres et pour parfois le déroulement de la messe. Donc c'était à ce moment-là que ça se passait. Tout ça ne se fait plus, hein, et donc le mélange de l'eau là, à ce moment-là veut dire ben voilà, rappelons-nous aussi que nous sommes censés apporter quelque chose. Donc nos prières, nos sacrifices, nos propres efforts qui viennent pas complété, mais d'une certaine manière, si on prend saint Paul, le sacrifice du Christ. Donc c'est vraiment l'objectif là de cette toute petite cérémonie. C'est d'ailleurs en raison de ces offrandes qui étaient apportées que au début il y avait le lavabo. Le lavabo, il a une signification spirituelle. Hein, je vais me purifier les mains avant la consécration, mais il faut bien voir que au début, c'est juste que le célébrant recevait plein de choses. Qui, au moment de l'offertoire, et que donc ensuite au moment de rentrer dans la cérémonie de la messe, ben, il avait les mains sales, et donc il fallait effectivement les laver, hein. Alors très vite on a arrêté la cérémonie des offrandes, mais on a continué le lavabo et il a pris une dimension plus spirituelle. Alors voilà, je pense que cet élément de l'agonie de notre Seigneur à Gethsémani est quelque chose qui peut être intéressant même pour notre propre prière à ce moment de l'offertoire. On rentre ensuite dans le canon avec tout d'abord la préface. La préface, c'est facile, c'est-à-dire que depuis le IIe siècle, elle est présente dans toutes les liturgies d'Orient et d'Occident. Donc c'est vraiment un truc qu'on trouve absolument partout. Alors après, il y a eu des myriades de préfaces qui ont été rédigées dans l'histoire de l'Église. Saint Pie V les a réduites à 11 au moment du missel de 1570, mais quand même, on en a rajouté 3 depuis, je pense, de préfaces. Il doit y en avoir 14 en tout. On a rajouté, il me semble, celle du Saint-Sacrement, peut-être bien, je ne suis pas sûr. Bon, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais bon, on en a rajouté 2 ou 3, ça c'est sûr. En soi, voilà, c'est pas forcément un problème. Et ensuite, il va y avoir le Sanctus, présent aussi partout, dans toutes les liturgies de l'Église, des églises chrétiennes, vraiment chrétiennes, hein, je laisse de côté les protestants. Le prêtre s'incline. Il s'incline parce qu'il y a une référence nette là à ce que font les séraphins devant le trône de l'agneau dans le prophète Isaïe. Hein, le fait de voir les séraphins qui se voilent la face et qui s'inclinent devant le trône en disant « Saint, Saint, Saint », eh bien c'est une référence directe à la fois à l'Ancien Testament et à l'Apocalypse de Saint Jean. Donc là, on imite encore une fois ce que font les anges devant Dieu. Hein. Suit ensuite la petite prière du Te Igitur, hop, que je vais vous citer, si je la retrouve. Voilà. Donc nous vous supplions humblement, nous vous demandons de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tâche, etc. À ce moment-là, le prêtre élève légèrement les yeux au ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué la chose. En fait, c'est une référence au miracle de Lazare, où Jésus lève les yeux au ciel avant de ressusciter Lazare. Donc, c'est quelque chose qui est assez important, encore une fois, parce qu'on a une référence directe à la vie du Christ. Et la prière date du 5e siècle. Donc, on est sur des choses, encore une fois, très, très antiques. Je passe sur quelques éléments, surtout qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors oui, ça. Vous avez une prière qui s'appelle le Quam Oblationem, que vous devez connaître au moment du canon, toujours. Hein, si je la retrouve. Voilà. On est vraiment au moment de la... juste avant la consécration. Cette offrande au Dieu, nous vous en prions, la bénir, l'agréer, l'approuver pleinement. Vous avez trois signes de croix. La rendre parfaite et digne de vous plaire, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de votre Fils. Encore deux signes de croix. Ça fait en tout... donc trois signes de croix pour la Sainte Trinité, deux pour le corps et le sang, jusqu'ici c'est simple. Vous avez en tout cinq signes de croix qui vont signifier les cinq plaies du Christ en croix. Donc là encore, vous avez des symboles assez importants. Et puis ensuite, on attaque à proprement parler la consécration, et vous l'avez encore une fois, cinq signes de croix sur l'hostie, sur le calice, hein, encore en référence aux cinq plaies du Christ. Il s'agit à chaque fois de rappeler les souffrances du Christ au moment où il va y avoir le renouvellement du sacrifice à l'autel. Ensuite, petite élévation à la fin du canon. Petite élévation, et vous avez en tout six signes de croix à ce moment-là. D'abord, trois avec la main, puis trois avec l'hostie au-dessus du calice. Ça fait beaucoup de signes de croix. Alors, pourquoi tous ces signes de croix? D'abord, trois avec la main et trois avec l'hostie au-dessus du calice, ça signifie en fait les différentes heures de la Passion. Troisième heure, la condamnation par les Juifs. Sixième heure, la condamnation par les païens, 9e heure, la mort du Christ. Hein, donc 3, 3, et puis 3 fois 3, 9. Hein, donc le but est de rappeler tous ces éléments-là à ce moment-là, de quand le canon est terminé. Voilà, le Christ est mort, tout est accompli. On a fait le déroulé de la Passion du Christ depuis le début, la condamnation par les Juifs, jusqu'à la mort du Christ. Donc 3e heure, condamnation par les Juifs, 6e heure, condamnation par les païens, et 9e heure, la mort du Christ. Et puis ensuite, à nouveau, deux signes de croix. On comprend que quand ils avaient perdu toute cette signification-là, ça pouvait que sembler absurde. Pourquoi faire tout ça si on sait pas, si on ne se plonge pas dans la question des symboles? Il n'y a pas vraiment de, raison. Donc deux signes de croix avec l'hostie, mais pas n'importe où, devant le calice. Donc c'est important, vous aviez eu d'abord les signes de croix avec l'hostie au-dessus du calice, et là maintenant... on avance un peu l'hostie, et les signes de croix, on les fait devant le calice, pour signifier la séparation entre la chair et l'âme du Seigneur au moment de la mort. Donc, c'est une manière de montrer, voilà, il est mort. Donc, comme il est mort, le sang et la chair sont séparés, ça signifie la mort, et la chair et l'âme sont aussi séparés. Donc, on est vraiment, voilà, sur quelque chose qui est incompréhensible si on rentre pas dans ces symboles-là. Bon. Arrive le pater, je passe encore un petit peu, et vous avez là la fraction du pain, qui là encore symbolise les souffrances du Christ, et on mélange un petit bout d'hostie dans le vin, au moment de ce qu'on appelle la commixio. Qu'est-ce que ça veut dire, mélanger un petit bout d'hostie dans le vin? Eh bien, le Christ était mort, maintenant, il est ressuscité. Donc, le corps et le sang sont à nouveau réunis. C'est pour ça qu'on met ce petit bout de pain dans le calice, hein, pour signifier que le corps et le sang sont à nouveau réunis. Et donc là, on a retracé l'ensemble de l'histoire du salut, hein, la souffrance des hommes, la nativité, l'enseignement du Christ, l'agonie, la mort, la résurrection, et la messe se termine. Voilà en gros comment est-ce qu'on peut lire un petit peu tout ça et comprendre les différents symboles qu'il y a dedans. Voilà, et bien voir que les raisons pour lesquelles on est attaché à cette messe ont vraiment des choses assez précises quand même derrière. Et j'en ai fini.